franceinter.fr.
Hélène Jouan, bonjour.
Bonjour.
Vous avez d'abord regardé les titres de la presse britannique.
Le massacre des innocents, le titre en noir, barre la une du Daily Mail. Le Daily Mail qui insiste tout particulièrement sur le sort des enfants, certains très jeunes, 6 ans, qui ont dû quitter seuls la salle de concert après avoir donc entendu le grand bang. Nuit de souffrance à Manchester pour le Manchester Evening News. Carnage au concert, titre le Scottish Daily Mail. Terreur à l'Arena pour le Sun. Des quotidiens qui publient tous en une les mêmes photos, une jeune femme bras en sang soutenue par des bobbies, femme. Les premiers soins donnés à même le sol ou encore l'armée qui patrouille autour de la plus grande salle de concert d'Europe où a donc eu lieu cette nuit cette explosion dont on sait maintenant qu'elle a fait 22 morts au moins, dont plusieurs enfants. Premier témoignage, c'était comme une zone de guerre, dit un survivant au Sun pour décrire la scène. Le sang, le bruit, les corps, je n'oublierai jamais, dit un autre. Un témoin parle d'une bombe avec des clous. Sur les sites des journaux, une vidéo filmée avec un portable où l'on entend un responsable de la salle demander aux spectateurs de ne pas paniquer, tout va bien. Leur dit-il. Scène de panique pourtant qui s'ensuit évidemment, filmée également, cris, bousculade dans les travées pour sortir à tout prix et au plus vite. Sur les journaux en ligne toujours, des portraits d'ados que les parents recherchent encore et des centaines de messages envoyés sur les réseaux sociaux pour tenter d'obtenir des nouvelles. Facebook a d'ailleurs activé son safety check afin de permettre de continuer à échanger malgré les lignes de téléphone saturées. La ville entière qui se mobilise toujours via ces mêmes réseaux sociaux pour proposer une chambre pour se mettre à l'abri ou encore des taxis et des Uber gratuits pour rentrer chez soi. Jusqu'à présent, seuls le Daily Mirror et le Daily Mail affichaient alors une attaque suicide et le Guardian évoquait le caractère terroriste présumé de cet incident. Mais la presse britannique restait prudente comme à son habitude, même si la première ministre Theresa May avait très vite affirmé dans un communiqué que cette attaque était une épouvantable attaque terroriste. On sait désormais, il y a quelques instants, la police l'a confirmé, il s'agirait bien d'un attentat kamikaze, un homme seul, semble-t-il, qui aurait déclenché sa bombe. Et puis on retiendra ce message parmi tant d'autres, celui de la chanteuse américaine Ariana Grande qui se produisait dans la salle de concert. Du fond de mon cœur, je suis désolée, les mots me manquent, a-t-elle tweeté dans la nuit.
En France, Hélène, premier test pour le nouveau président.
Recul interdit, prévient l'éditorialiste du Figaro, alors qu'Emmanuel Macron lance aujourd'hui le coup d'envoi de la réforme du Code du travail. S'il cède, notamment sur les ordonnances, il aura donné un contre-signal préoccupant sur sa capacité à réformer, renchérit Nicolas Bétou dans l'Opinion. Des quotidiens libéraux qui enjoignent donc le président à ne pas caler. Dans l'Opinion toujours, Fanny Guinochet détaille ce que chaque syndicat joue dans cette réforme. La relative bienveillance du patron de Force ouvrière hier dans les Échos à l'orée de la discussion, Jean-Claude Mailly dit à Emmanuel Macron de ne pas tout miser sur la CFDT, comme l'avait fait François Hollande, sinon il cognera, explique la journaliste. Le leader de FO n'a pas envie de faire une saison 2 de la loi El Khomri. Bref, si Macron parvient à isoler la CGT, ce sera une grande bataille de gagner, d'autant que la CGT est elle-même tiraillée entre radicaux et réformistes. La CFDT, poursuit Fanny Guinochet, doit elle aussi trouver la bonne partition. Trop de soutien au gouvernement, ça se verrait. Côté MEDEF, en revanche, on a du mal à cacher son enthousiasme. Reste maintenant à savoir ce que le président mettra, lui, sur la table. Certains craignent déjà qu'il ait des idées un peu trop arrêtées. Il est habile, mais quelle sera l'attitude de Jupiter sur la barémisation des indemnités prud'homales, déjà retoquée par le Conseil constitutionnel? Sera-t-il capable de dépasser la revanche? S'interroge un membre patronal. Où l'on apprend donc qu'on ne dit plus Macron, mais Jupiter, tout simplement. Nathalie Segone explique, elle, la stratégie de Jupiter. Donc, allez vite, donnez plus de chances que prévu à la concertation afin d'éviter que les élections législatives ne tournent au référendum pour ou contre cette réforme emblématique.
En attendant la conclusion de ce premier test, le gouvernement doit voler au secours de plusieurs entreprises en difficulté.
Libération rebaptise pour l'occasion le président et le premier ministre, les démineurs. C'est bien le retour de l'état-pompier, relève Jean-Christophe Ferraud à 3 semaines des législatives. Jamais l'exécutif n'avait pris son rôle d'urgentiste social au pied de la lettre. Il joue désormais les brancardiers ou les réanimateurs au chevet d'entreprises de Verri, par exemple, Arc International ou encore de GM et S. Mais de Heuliez à Florange, prévient le journaliste, l'histoire récente a montré qu'une entreprise ou une usine sauvée par l'État le temps d'une élection ne l'est jamais pour très longtemps. Et puis, retour sur une autre loi importante en préparation, celle sur la moralisation de la vie publique. Alors au passage, l'une des préconisations faites hier par René Dosière semble viser assez directement le Front National. Il propose que les partis se voient interdits de jouer les banquiers vis-à-vis de leurs candidats, ce dont est soupçonné Jeanne, le micro au parti de Marine Le Pen. Et puis Sud-Ouest raconte ce matin comment certains, pas seulement au FN évidemment, ont profité de toutes les martingales possibles. Jusqu'en 2004, une loi légèrement différente pour l'outre-mer permettait de bénéficier de l'aide publique pour chaque candidat présenté. Pas besoin de faire 1% dans 50 circonscriptions. Eh bien, le sénateur de Moselle, Jean-Louis Masson, avait eu la riche idée de présenter en 1997 deux candidats en Guadeloupe. Les suppléants n'étaient autres que sa femme et sa fille, sur le compte de son micro-parti Metz pour tous, opportunément rebaptisé quand même Parti Guadeloupéen. Une façon de bénéficier direct de la manne publique. Et puis tous ceux qui se rattachaient à Metz pour tous se voyaient généreusement remettre 37 000 euros. Sous les assauts de René Dosière, ce mécanisme a donc disparu en 2004. Depuis, Jean-Louis Masson me voue une haine farouche, sourit le député, nous raconte Yann Saint-Cernin dans Sud-Ouest.
Et Florian Philippot, réformer le financement des partis politiques, c'est une nécessité ou ça vous embarrasse ou ça vous déplaît?
Le financement des partis politiques est très surveillé. Alors qu'on surveille encore plus, très bien, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de surveillance, c'est très surveillé. D'ailleurs, les campagnes électorales font l'objet, ce qui est bien normal, hein, il y a de l'argent public, d'une surveillance approfondie.
C'est une question de surveillance,
Et c'est peut-être le danger d'une partie de cette loi, il y a des choses bien dans cette loi, mais il y a aussi un danger, c'est de laisser le monopole aux banques pour le financement. Et donc, en fait, on donne la possibilité aux banques de choisir qui peut être candidat ou pas candidat. Je vous rappelle que nous n'avons jamais eu le soutien d'une banque française. Donc cette loi, elle devrait être assortie d'une obligation faite au moins à un établissement bancaire en période électorale de financer l'ensemble des candidats. Sinon, il y a un vrai problème démocratique. On ne peut pas laisser les clés du pays. Vous allez me dire, avec M. Macron, c'est déjà fait. Mais bon, on ne peut pas laisser les clés du pays à la banque jusqu'à décider qui sera candidat à nos élections ou pas.
Les banques prêtent à des taux moins élevés que le Front National, si j'en juge par ce qui a été révélé ces derniers
années. Si les banques pouvaient nous prêter, ce serait très bien.
Non, mais
on lance un énième appel d'ailleurs.
Taux moins élevé que le Front National à ses candidats.
Vous savez qu'on ne vous donnera pas le pouvoir, certes, c'est vrai. Nous, on donnera plutôt le pouvoir au peuple français. Mais ceci dit, faites votre boulot et financez tout le monde.
On termine, Hélène Jouan, par Cannes et son cinéma.
Pour vous signaler juste un article signé Didier Perron et Julien Gester en Libération sur le film Les films de Haneke et du grec L'Antimos, projeté hier. Un article qui vaut le détour. Titré « Le Festival de Bourges », il raconte le jeune massacre de la classe bourgeoise auquel se livrent les deux cinéastes. La course à la palme vient de nous faire traverser 24 heures de plongée sans scaphandre, en des tréfonds de déliquescence physique, intellectuelle et morale, d'une classe dont il n'y aurait décidément plus rien à sauver, surtout pas les enfants. Tabassage en règle donc de la classe dominante des réalisateurs dans leurs films, tabassage aussi des deux journalistes qui se gaussent du narcissisme de Cannes et de ses notables, qui aiment tant se regarder et tant se flageller. C'est très méchant et c'est très bien écrit.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse.